La grave blessure de Grégor, dont il souffrit pendant plus d'un mois, sembla, car la pomme demeure affichée dans la chair comme un souvenir tangible, personne n'osant l'enlever, avoir rappelé même au père que Grégor, malgré sa forme actuelle, triste et répugnante, était un membre de la famille, que l'on n'avait pas le droit de traiter en ennemi, mais envers qui la famille avait le devoir absolu de ravaler son dégoût et de supporter, rien que supporter. Et donc, alors qu'avec cette lésion, Grégor avait sans doute définitivement perdu de sa mobilité et qu'il lui fallait dorénavant de longues, de très longues minutes pour traverser sa chambre comme un vieil invalide, quant à ramper dans les hauteurs, il ne fallait pas y songer, il reçut, comme pour compenser cette aggravation de son état, un avantage qui lui parut parfaitement suffisant. Chaque soir, on ouvrait la porte de la salle et il prit l'habitude de la fixer des yeux une ou deux heures à l'avance. Il pouvait ainsi, tapis dans l'obscurité de sa chambre et invisible depuis la salle, voir toute la famille autour de la table éclairée. Et pour ainsi dire avec l'approbation générale, donc pas du tout comme auparavant, écouter leur conversation. Bien sûr, ce n'étaient plus les entretiens animés d'autrefois, dont Grégor s'était toujours souvenu avec quelque nostalgie dans ses petites chambres d'hôtel, au moment où, fatigué, il devait se plonger dans les draps humides du lit. À présent, l'ambiance était le plus souvent très silencieuse. Le père ne tardait pas à s'endormir dans son fauteuil après le dîner. La mère et la sœur s'enjoignaient l'une à l'autre de se taire. La mère, se courbant beaucoup sous la lumière, cousait de la lingerie fine pour un magasin de nouveautés. La sœur, qui avait accepté une place de vendeuse, apprenait, le soir, la sténo et le français, dans l'espoir d'accéder plus tard à un meilleur emploi. Parfois, le père se réveillait, et comme s'il ne savait pas du tout qu'il avait dormi, disait à la mère, « Comme tu couds longtemps ce soir encore !» Puis il se rendormait aussitôt, tandis que la mère et la sœur échangeaient un sourire las. Avec une sorte d'entêtement, le père refusait d'enlever son uniforme d'huissier, même à la maison, et tandis que sa robe de chambre pendait, inutile au porte-manteau, le père somnolait dans son fauteuil, avec tous ses vêtements sur lui, comme s'il était toujours prêt pour le service et que même ici, il attendit l'appel de son supérieur. En conséquence de quoi, cet uniforme, qui n'avait jamais été neuf, même au début, devint de moins en moins soigné, malgré tous les soins de la mère et de la sœur. Grégor passait souvent des soirées entières à contempler cet habit rutilant avec ses boutons dorés, toujours bien astiqués, mais couverts de taches, et dans lequel le vieil homme dormait d'une façon très inconfortable et pourtant à point fermé. Dès que la pendule sonnait 10 heures, la mère essayait de réveiller le père en lui parlant doucement pour le convaincre d'aller se coucher, car ici, il ne dormait pas vraiment, et lui qui devait prendre son service à 6 heures en avait le plus grand besoin. Mais avec l'entêtement qui s'était emparé de lui depuis qu'il était huissier, le père s'obstinait toujours à vouloir rester plus longtemps à la table, bien qu'il s'endormît régulièrement. Après quoi, on avait toutes les peines du monde pour lui faire troquer le fauteuil contre le lit. La mère et la sœur avaient beau insister de 1000 façons, en lui faisant de petites remarques, il secouait la tête pendant des quarts d'heure entiers, les yeux fermés, sans se lever. La mère le tirait par la manche, lui disait à l'oreille des mots caressants. La sœur abandonnait son travail pour aider la mère, mais rien n'avait d'effet sur le père. Il ne s'en renfonçait que davantage dans son fauteuil. C'est seulement quand les femmes le saisissaient sous les bras qu'il ouvrait les yeux et regardant tantôt la mère, tantôt la sœur, il avait l'habitude de dire en voilà une vie, voilà le repos de mes vieux jours. Et s'appuyant sur les deux femmes, il se redressait difficilement, comme s'il était pour lui-même le plus pesant des fardeaux, puis se laissait conduire jusqu'à la porte, les renvoyait d'un geste et continuait tout seul. Alors la mère se débarrassait au plus vite de ses affaires de couture et la sœur de sa plume pour courir derrière le père et continuer à l'assister.
Ließ sich von den Frauen bis zur Türe führen, winkte ihnen dort ab und ging nun selbstständig weiter, während die Mutter ihr Nähzeug, die Schwester ihre Feder eiligst hinwarfen, um hinter dem Vater zu laufen und ihm weiter behilflich zu sein.
Qui donc, dans cette famille usée, épuisée par le labeur, avait le temps de s'occuper de Grégor, tout ce qui n'était absolument nécessaire. Le train de vie se réduisit de plus en plus. On finit par envoyer la bonne, une énorme femme de service, tout en os, avec des cheveux blancs volant autour de la tête, venait matin et soir pour les tâches les plus grossières. La mère s'occupait de tout le reste, en plus de ses nombreux travaux de couture. Il arriva même que l'on vendit certains bijoux de famille que la mère et la sœur avaient portés autrefois, radieuses, à l'occasion de sorties et de festivités. C'est ce que Grégor comprit en les entendant le soir parler ensemble des sommes qu'ils en avaient obtenues. Mais la principale récrimination était toujours que l'on ne pouvait quitter cet appartement par trop vaste, compte tenu de la situation actuelle, car on n'imaginait pas comment on pouvait déménager Grégor. Mais il se rendait bien compte que les scrupules à son égard ne constituaient pas l'unique obstacle à un déménagement. Car lui, on aurait pu aisément le transporter dans une caisse spéciale avec quelques trous d'aération. Ce qui, au fond, empêchait la famille de changer d'appartement, c'était plutôt le manque total d'espoir, l'idée qu'ils étaient sous le coup d'un malheur que personne d'autre, dont tout le cercle de leurs parents et connaissances, n'avait éprouvé.
Und der Gedanke daran, dass sie mit einem Unglück geschlagen war, wie niemand sonst im ganzen Verwandten- und Bekanntenkreis.
Was die Welt von armen Leuten verlangt, erfüllten sie bis zum Äußersten. Der Vater holte den kleinen Bankbeamten das Frühstück.
Mutter opferte sich für die Wäsche fremder Leute.
La mère s'épuisait pour du linge appartenant à des étrangers. La sœur courait derrière son comptoir pour satisfaire les clients.
Die Kräfte der Familie schon nicht.
Mais cette famille n'avait pas la force d'en faire davantage. Et Grégor recommença à souffrir, comme au début, de sa blessure dans le dos, quand il voyait la mère et la sœur revenir après avoir mis le père au lit. Laissant de côté leur travail, elles se rapprochaient et restaient assises l'une contre l'autre, joue contre joue. Et la mère disait alors, indiquant la chambre de Grégor, « Ferme la porte là-bas, Grete. » Grégor se retrouvait dans l'obscurité, tandis qu'à côté, les femmes mêlaient leurs larmes ou regardaient fixement la table, sans même pleurer. Les nuits et les journées, Grégor les passait presque sans dormir. Par moments, il songeait à reprendre en main, comme autrefois, les affaires de la famille, dès que l'on ouvrirait à nouveau la porte. Après une longue période, il vit réapparaître dans ses songeries le directeur et le gérant, les commis et les apprentis, le factotum particulièrement borné, deux ou trois amis travaillant dans d'autres magasins, une femme de chambre dans un hôtel de province, souvenir agréable et fugace, une caissière dans un magasin de chapeaux qu'il avait sérieusement courtisé, mais sans aller assez vite. Ils surgissaient tous, mêlés à des inconnus ou à des personnes oubliées. Mais au lieu de lui venir en aide, à lui et à sa famille, ils restaient tous inaccessibles. Et il était content quand ils
disparaissaient.
Mais ensuite, il n'était plus du tout d'humeur à se faire du souci pour sa famille. Il enrageait au contraire de la manière déplorable dont on s'occupait de lui. Et bien qu'il n'imaginât rien qui pût exciter son appétit, il faisait des plans pour parvenir jusque dans l'office et y prendre ce qui lui revenait de droit, même s'il n'avait pas faim. Car maintenant, sans plus réfléchir à ce qui pourrait faire particulièrement plaisir à Grégor, la sœur, avant d'aller au magasin le matin et le midi, glissait du bout du pied, très vite, quelque chose à manger dans la chambre de Grégor, n'importe quoi. Et le soir, sans faire attention si la nourriture avait été juste goûtée ou bien, comme c'était le cas le plus souvent, si elle n'avait pas été touchée du tout, elle la poussait dehors d'un coup de balai. Le ménage de la chambre qu'elle faisait toujours le soir, à présent, n'aurait pas pu être expédié plus vite. Des traînées de crasse s'étalaient sur les murs. Il y avait par endroits des boules de poussière et de saleté. Au début, quand la sœur arrivait, Grégor prenait position dans les coins particulièrement éloquents à cet égard, voulant ainsi lui adresser un reproche. Mais il aurait sans doute pu y rester des semaines sans que la sœur se fût corrigée. En effet, elle voyait la crasse, aussi bien que lui, mais elle avait décidé de ne pas y toucher. Voilà tout. Cependant, avec une susceptibilité tout à fait nouvelle chez elle, et qui s'était d'ailleurs emparée de toute la famille, elle veillait à ce que le ménage de Grégor lui fût réservé.
Aber er hätte wohl wochenlang dort bleiben können, ohne dass sich die Schwester gebessert hätte. Sie sah ja den Schmutz genauso wie er, aber sie hatte sich eben entschlossen, ihn zu lassen. Dabei wachte sie mit einer an ihr ganz neuen Empfindlichkeit, die überhaupt die ganze Familie ergriffen hatte, darüber, dass das Aufräumen von Gregors Zimmer ihr vorbehalten blieb.
Or, il arriva un jour que la mère nettoya à fond la chambre de Grégor, ce qui l'obligea à utiliser plusieurs seaux d'eau. Toute cette humidité ne fut d'ailleurs pas appréciée par Grégor, et il resta étalé sur le canapé, sans bouger, très contrarié. Eh bien, la sanction ne se fit pas attendre pour la mère, car à peine la sœur eut-elle remarqué le changement dans la chambre de Grégor. Qu'elle courut, toute scandalisée, dans la salle, et bien que la mère l'implora en levant les bras au ciel, elle éclata violemment en larmes devant les parents. Le père, dans son fauteuil, avait bien sûr été réveillé en sursaut. D'abord stupéfait, ils la regardèrent, impuissant, avant de réagir à leur tour. Le père reprocha sur sa droite à la mère de n'avoir pas laissé à la sœur le nettoyage de la chambre de Grégor, cria ensuite sur sa gauche à la sœur qu'elle n'aurait plus jamais le droit de nettoyer la chambre de Grégor. La mère essaya alors d'entraîner dans la chambre à coucher le père déchaîné, qui ne se connaissait plus. La sœur secouait de son dos, martelait la table de ses petits poings. Et Grégor, durant ce temps, poussait de violents sifflements, furieux que personne n'eût l'idée de fermer la porte pour lui épargner ce spectacle et ce tapage.
Die Schwester, von Schluchzen geschüttelt, mit ihren kleinen Fäusten den Tisch bearbeitete und Gregor laut vor Wut darüber zischte, dass es keinem einfiel, die Tür zu schließen und ihm diesen Anblick und Lärm zu ersparen.
Mais même si la sœur, épuisée par son travail professionnel, était excédée de s'occuper de Grégor comme par le passé, la mère n'aurait pas dû pour autant le faire à sa place, ni Grégor être négligé.
So hätte noch keineswegs die Mutter für sie eintreten müssen und Gregor hätte doch nicht vernachlässigt werden brauchen.
Car désormais, il y avait la femme de service. Cette vieille veuve qui, grâce à sa solide charpente, avait pu, au cours de sa longue vie, traverser les pires épreuves, ne ressentait pas vraiment de répugnance envers Grégor. Un jour, par hasard, sans être du tout curieuse, elle avait ouvert la porte de la chambre et en apercevant Grégor, qui, complètement stupéfait, se mit à courir en tous sens, bien que personne ne le poursuivît. Elle était restée plantée là, très étonnée, les mains croisées sur le ventre. Depuis, elle ne manquait pas d'entrebâiller la porte, matin et soir, toujours en passant, et de jeter un coup d'œil chez Grégor. Au début, lorsqu'il vint vers elle, elle l'appelait avec des paroles qu'elle jugeait sans doute amicales. « Allez, viens par ici, vieux bousier !»« Mais regardez un peu le vieux bousier !» Grégor ne répondait d'aucune façon à ses invites, mais s'immobilisait sur place, comme si la porte n'eût pas du tout été ouverte. Si seulement, au lieu de la laisser faire à sa guise en le dérangeant pour rien, on avait plutôt ordonné à cette servante de nettoyer la chambre une fois par jour, un matin tôt, une pluie violente qui annonçait peut-être déjà la venue du printemps battait les vitres, Grégor fut si fort contrarié d'entendre la servante recommencer avec ses formules qu'il se tourna vers elle comme pour l'attaquer, mais lentement et sans vigueur.
Einmal am frühen Morgen, ein heftiger Regen, vielleicht schon ein Zeichen des kommenden Frühjahrs, schlug an die Scheiben, war Gregor, als die Bedienerin mit ihren Redensarten wieder begann, derartig erbittert, dass er, wie zum Angriff, allerdings langsam und hinfällig, sich gegen sie wendete.
D'ailleurs, la servante, loin de s'effrayer, se contenta de brandir une chaise qui se trouvait à proximité de la porte, et à la voir là, debout, la bouche grande ouverte, il était clair qu'elle n'avait pas l'intention de la refermer avant que le siège dans sa main ne retombât sur le dos de Grégor. « Alors, on ne vient pas plus loin ?» demanda-t-elle quand Grégor refit demi-tour. Puis elle reposa tranquillement la chaise dans le coin.
« Also weiter geht es nicht ?» fragte sie, als Gregor sich wieder umdrehte und stellte den Sessel ruhig in die Ecke zurück.
Gregor, à présent, ne mangeait presque plus rien. C'est seulement quand il passait par hasard devant sa pâtée qu'il en prenait une bouchée, comme par jeu. Il la gardait ensuite dans sa bouche pendant des heures et finissait en général par la recracher. Il pensa d'abord que c'était le chagrin de voir sa chambre dans cet état qui le retenait de manger. Mais il ne tarda pas à prendre son parti de ces transformations. On s'était mis à fourrer dans cette pièce les choses que l'on ne pouvait pas caser ailleurs. Et il y en avait à présent beaucoup, étant donné que l'on avait pris trois messieurs comme locataires dans une des chambres de l'appartement. C'étaient des messieurs très sérieux. Ils portaient tous les trois la barbe, comme Grégor le constata un jour en regardant par une fente de la porte. Très pointilleux sur l'ordre, non seulement dans leur chambre, mais aussi dans le reste de l'appartement, puisqu'ils y avaient élu domicile, et tout spécialement dans la cuisine. Ils ne supportaient pas le moindre objet inutile, et encore moins ce qui était sale. De plus, ils avaient apporté avec eux presque tout ce qu'il fallait pour le ménage. C'est pourquoi beaucoup d'ustensiles étaient devenus superflus, qu'on ne pouvait pas revendre, et qu'on ne voulait pas non plus jeter.
Unnützen oder gar schmutzigen Kram ertrugen sie nicht. Überdies hatten sie zum größten Teil ihre eigenen Einrichtungsstücke mitgebracht. Aus diesem Grunde waren viele Dinge überflüssig geworden, die zwar nicht verkäuflich waren, die man aber auch nicht wegwerfen wollte.
Tout cela prit le chemin de la chambre de Grégor's Zimmer, y compris la boîte à cendres et la boîte à ordures provenant de la cuisine. La servante, toujours très pressée, balançait purement et simplement dans la chambre de Grégor tout ce qu'on ne pouvait plus utiliser pour l'instant. Par chance, Grégor ne faisait en général qu'apercevoir l'objet en question et la main qui le tenait. La servante avait peut-être l'intention de venir à l'occasion, quand elle en aurait le temps, pour reprendre certaines choses ou bien pour tout jeter d'un seul coup à la poubelle. Mais en réalité, elle restait dans l'endroit où elles avaient atterri la première fois, à moins que Grégor ne les déplaçât en se promenant dans ce bric-à-brac, d'abord contraint de le faire, faute d'autre espace libre pour ramper, ensuite avec un plaisir croissant, même si après ces pérégrinations, ils demeuraient immobiles durant des heures, tristes et fatigués à mourir.
Zuerst gezwungen, weil kein sonstiger Platz zum Kriechen frei war, später aber mit wachsendem Vergnügen, obwohl er nach solchen Wanderungen zum Sterben müde und traurig wieder stundenlang sich nicht rührte.
Comme les locataires prenaient parfois aussi leur dîner à la maison, dans la salle commune, la porte en restait fermée certains soirs. Pourtant, Grégor accepta très facilement qu'elle ne fût pas ouverte, car il était déjà arrivé qu'il ne profita pas de certaines soirées où elle était, se tenant tapis au contraire dans le coin le plus obscur de sa chambre, sans que la famille s'en aperçût. Mais une fois, la servante avait laissé la porte de la salle entrebâillée, et elle le resta même quand les locataires firent leur entrée, le soir venu, et qu'on alluma la lumière.
Einmal aber hatte die Bedienerin die Tür zum Wohnzimmer ein wenig offen gelassen, und sie blieb so offen, auch als die Zimmerherren am Abend eintraten und Licht gemacht wurde.
Sie s'assirent en haut de la table, là où par le passé avait pris place le père, la mère et Grégor. déplièrent leurs serviettes et prirent en main couteau et fourchette. Aussitôt, la mère apparut à la porte avec un plat de viande, suivi de la sœur qui portait un imposant plat de pommes de terre. Le repas bien chaud était tout fumant. Les locataires se penchèrent sur les plats disposés devant eux, comme s'ils voulaient les contrôler avant de manger. Et de fait, celui qui était assis au milieu et qui semblait être considéré par les deux autres comme une autorité, découpa un morceau de viande à même le plat, manifestement pour vérifier s'il était assez tendre et s'il n'y avait pas lieu de le renvoyer à la cuisine. Il fut satisfait, et la mère et la sœur qui l'avaient observé anxieuse se mirent à sourire, soulagées.
Offenbar, um festzustellen, ob es mürbe genug sei und ob es nicht etwa in die Küche zurückgeschickt werden solle. Er war befriedigt und Mutter und Schwester, die gespannt zugesehen hatten, begannen aufatmend zu lächeln.
Die Familie selbst aß in der Küche. Trotzdem kam der Vater. Le père allait dans la salle et après s'être incliné une seule fois, il faisait le tour de la table, la casquette à la main. Les messieurs se levaient tous ensemble et marmonnaient quelque chose dans leur barbe. Quand ils se retrouvaient seuls, ils mangeaient dans un silence presque total. Il semblait étrange à Grégor que parmi les divers bruits du repas, on ne distinguât jamais que celui de leurs dents en train de mâcher, comme s'il fallait montrer à Grégor qu'on avait besoin de dents pour manger, et que même avec les plus belles mandibules, mais sans dents, on ne pouvait arriver à rien.
Als ob damit Grégor gezeigt werden sollte, dass man Zähne brauche, um zu essen, und dass man auch mit den schönsten zahnlosen Kiefern nichts ausrichten könne.
Pourtant, j'ai de l'appétit, se dit Grégor plein d'inquiétude. Mais pas pour ces choses-là. Comme ses locataires se rassasient, alors que moi, je dépéris. Ce fut justement ce soir-là, Grégor ne se souvenait pas d'avoir entendu le violon durant toute cette période, qui retentit dans la cuisine. Les locataires avaient déjà fini le dîner. Celui du milieu avait sorti un journal dont il avait distribué une feuille à chacun des deux autres, et ils étaient en train de lire en fumant, le dos bien calé. Lorsque le violon commença à jouer, ils dressèrent l'oreille, se levèrent et allèrent sur la pointe des pieds jusqu'à la porte de l'entrée, pour s'immobiliser sur le seuil, serrés les uns contre les autres. On avait dû les entendre depuis la cuisine, car le père cria : Le violon dérange peut-être ces messieurs ? On peut l'arrêter tout de suite ? Bien au contraire, dit le monsieur du milieu. Est-ce que la demoiselle ne voudrait pas venir auprès de nous jouer dans la salle où il fait bien meilleur et où elle serait plus à son aise ? Mais comment donc ? Cria le père, comme si c'était lui qui jouait du violon. Les messieurs retournèrent dans la salle et attendirent. Le père arriva bientôt, emportant le pupitre, la mère avec les partitions et la sœur avec le violon. Elle prépara posément tout ce qu'il lui fallait pour jouer. Les parents qui, dans le passé, n'avaient jamais loué de chambre et qui, pour cette raison, étaient d'une politesse exagérée envers les locataires, n'osèrent même pas s'asseoir sur leur propre siège.
Bald kam der Vater mit dem Notenpult, die Mutter mit den Noten und die Schwester mit der Violine. Die Schwester bereitete alles ruhig zum Spiele vor. Die Eltern, die niemals früher Zimmer vermietet hatten und deshalb die Höflichkeit gegen die Zimmerherren übertrieben, wagten gar nicht, sich auf ihre eigenen Sessel zu setzen.
Le père resta appuyé contre la porte, la main droite juste glissée entre deux boutons de sa vareuse d'uniforme. L'un des messieurs avança tout de même un fauteuil à la mère, mais comme elle le laissa à l'endroit où il l'avait placé par hasard, elle se retrouva assise à l'écart, dans un
coin.
La sœur se mit à jouer. Le père et la mère suivaient attentivement, chacun de son côté, les mouvements de ses mains. Grégor, attiré par le violon, s'était risqué un peu plus loin en avant et avait déjà la tête dans la salle. Il était à peine étonné de constater que depuis quelque temps, il avait très peu d'égards pour les autres. Avant, il mettait son point d'honneur à être attentionné. Or, c'est bien maintenant qu'il aurait vraiment eu des raisons de ne pas se montrer. Car avec la poussière qui régnait dans sa chambre et qui volait au moindre mouvement, il était, lui aussi, une couleur de sa beauté. Il entraînait avec lui des bouts de fil, des cheveux, des restes de nourriture, accrochés sur son dos et sur ses flancs. Et son indifférence à tout était par trop grande pour qu'il se mît sur le dos, comme il le faisait avant, plusieurs fois par jour, afin de se nettoyer contre le tapis. Or, malgré l'état où il se trouvait, il n'eut pas scrupule à s'avancer quelque peu sur le plancher impeccable de la salle.
Zustandes hatte keine Scheu, ein Stück auf dem makellosen Fußboden des Wohnzimmers vorzurücken.
Au demeurant, personne ne lui prêtait attention. La famille était entièrement requise par le violon. Les locataires, en revanche, qui avaient commencé par se poster, les mains dans les poches, derrière le pupitre, beaucoup trop près, à tel point qu'ils auraient tous pu regarder dans la partition, gênant la sœur sans aucun doute, ne tardèrent pas à se retirer vers la fenêtre, en chuchotant, la tête penchée de côté. Ils restèrent là, observés avec inquiétude par le père. Selon toutes les apparences, en effet, leur espoir d'entendre un beau morceau de violon, au moins une pièce divertissante, était déçu. Ils en avaient assez de cette séance, et ce n'était plus que par politesse qu'ils acceptaient d'être dérangés. La façon en particulier dont ils rejetaient dans les hauteurs la fumée de leurs cigares par le nez et par la bouche trahissait beaucoup d'agacement. Pourtant, la sœur jouait si bien. Son visage était incliné sur le côté, ses yeux vigilants et tristes suivaient sur la portée. Grégor rampa un peu plus loin encore, gardant la tête au ras du plancher pour pouvoir éventuellement rencontrer son regard. Était-il un animal alors que la musique le bouleversait tant? Il avait l'impression que s'ouvrait devant lui un chemin vers la nourriture inconnue à laquelle il aspirait. Il était résolu à progresser jusqu'à la sœur, à tirer un petit coup sur sa jupe pour lui suggérer que si elle voulait bien, elle n'avait qu'à venir avec son violon chez lui. Car personne ici n'appréciait sa musique comme il le pouvait.
Ihm war, als zeige sich ihm der Weg zu der ersehnten, unbekannten Nahrung. War entschlossen, bis zur Schwester vorzudringen, sie am Rock zu zupfen und ihr dadurch anzudeuten, sie möge doch mit ihrer Violine in sein Zimmer kommen. Denn niemand lohnte hier das Spiel so, wie es lohnen wollte. Wollte sie nicht mehr aus seinem Zimmer lassen, wenigstens nicht, solange lebte. Seine Schreckgestalt sollte ihm zum ersten Mal nützlich werden. In allen Türen seines Zimmers wollte gleichzeitig sein und den Angreifern entgegenfrauchen. Die Schwester aber sollte nicht gezwungen, sondern freiwillig bei ihm bleiben. Sie sollte neben ihm auf dem Kanapé sitzen, das Ohr zu ihm herunterneigen. Und
que si ce malheur n'était pas arrivé en
anvertrauen,
dass
die feste Absicht gehabt habe, sie auf das Konservatorium zu schicken. Und dass dies, wenn nicht das Unglück dazwischen gekommen wäre, vergangene Weihnachten,
Grégor se hausserait jusqu'à son épaule et en se disant qui était dégagé.
Allen gesagt hätte, ohne sich irgendwelche Widerreden zu kümmern. Nach dieser Erklärung würde die Schwester in Tränen der Rührung ausbrechen und Gregor würde sich bis zu ihrer Achsel erheben und ihren Hals küssen, den sie, seitdem sie ins Geschäft ging, frei, ohne Band oder Kragen trug.
Herr Samsa!
Vous venez d'écouter La Métamorphose, chapitre 3, première partie, avec les voix de Nadine et de Félicitas, l'accompagnement musical de Ron Giesing, Lubomir Melnik, Bauhaus, Robert Rick, Edwin Kank.